Avec Marie Bochet, le journal d'Outre-mer Première, nouvelle découverte, Marie, sur le virus Zika. Il s'attaquerait directement au système immunitaire des femmes enceintes.
C'est ce qu'ont découvert des scientifiques américains. Le virus Zika détecterait une faille dans le processus qui permet de protéger le fœtus. Colette Borda pour Guadeloupe Première.
C'est ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un esprit vicieux et machiavélique, celui en l'occurrence du Zika. Et cette découverte a été faite par des chercheurs de l'Université de la Californie du Sud. Elle nous apprend que le virus agit tel un envahisseur capable de détecter la faiblesse dans la défense d'un château, ciblant les globules blancs des femmes enceintes. Appelés encore leucocytes, ces globules blancs jouent pour rappel, un rôle essentiel dans la lutte contre les infections et les cancers. Durant leur grossesse, les futures mamans, de façon naturelle, sont plus enclines à l'immunosuppression, un processus qui leur permet, si besoin est, d'inhiber l'activation de leur système immunitaire afin d'éviter le rejet du fœtus. Sauf que le Zika, à l'image du virus du sida, y voit une faille, une bonne occasion d'assiéger certains globules blancs et de les transformer en immunosuppresseurs, moins offensifs donc, voire aveugles face aux attaques extérieures. La garde, ou en plus clair, la protection ainsi baissée, le Zika peut faire son œuvre maléfique. 600 femmes enceintes avaient été infectées en 2016 en Guadeloupe et 6 cas de microcéphalie diagnostiqués.
Et en Guyane, un autre virus inquiète, celui de la fièvre jaune. Depuis 1998, il avait disparu du territoire et pourtant un cas a été confirmé mardi par l'Institut Pasteur. La patiente est décédée le 9 août dernier après un séjour à la frontière entre la Guyane et le Brésil. La fièvre jaune est transmise par les moustiques et les autorités annoncent avoir pris toutes les précautions nécessaires en matière de démoustiquage. Le 23 août est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. L'UNESCO célèbre cette journée pour rendre hommage aux esclaves qui se sont battus pour leur liberté. En France, que ce soit dans l'Hexagone ou dans l'Outre-mer, il existe toujours des monuments et des rues à la gloire de quelques esclavagistes. L'association Mémoire et Partage appelle à ne pas banaliser ce passé douloureux. D'autres associations proposent des mesures plus radicales. Les explications de Marie-Carline Chardonnay.
Que faire face aux fantômes de l'esclavage en France, dans les villes ayant participé au commerce triangulaire comme Nantes, Bordeaux ou en Outre-mer, on trouve encore des rues au nom d'esclavagistes. Pour Kaffa Diallo, le président de Mémoire et Partage, il ne faut pas rebaptiser ces rues.
Si on débaptise la rue, au fond, on efface la mémoire. Et ce que nous voulons, c'est que la mémoire puisse rester et que nul n'oublie qu'un crime a été commis.
C'est insuffisant, lui répond Louis-Georges Tain, président du CRAN.
Il faut remplacer ces noms par des noms de personnes qui ont lutté contre l'esclavage, qu'elles soient noires ou blanches. On ne peut pas, comme cela, impunément mettre au nom des rues des criminels.
Le conseil représentatif des associations noires rappelle que les signalétiques urbaines sont attribuées usuellement aux personnages glorieux de l'histoire de France et n'ont pas de vocation pédagogique. A l'inverse, l'association Mémoire et Partage de Kaffa Diallo veut, dans une démarche de transmission, expliquer le parcours de ces hommes.
Pour nous, c'est faire œuvre de citoyenneté que de conserver ces noms de rue, mais de leur apposer des panneaux explicatifs.
Loin de faire l'unanimité, ces deux propositions ouvrent le débat de la place que la société veut donner aux figures d'un passé douloureux.
Voilà pour l'actualité ultramarine. Bonne journée à tous.
Bonne journée. Marie Bochet, le journal d'Outre-mer Première.